Est-ce qu'avant le message, Daniel, tu as quelques nouvelles à nous donner?
Oui.
D'accord. Alors,
vas-y.
Je prie et puis je te laisse simplement nous donner quelques nouvelles. Seigneur, merci pour Daniel. Merci pour ce qu'il a reçu de ta part au travers de ce texte, Seigneur. Et nous puissions être des auditeurs, non pas oublieux, mais réceptifs, comme des vases, Seigneur, accueillant ta parole ce matin. Pour qu'elle chemine en nous, qu'elle transforme ce qu'il y a besoin d'être transformé, qu'elle guérisse ce qui a besoin d'être guéri, qu'elle restaure ce qui a besoin d'être restauré, qu'elle nous relève là où nous sommes faibles, Seigneur. Ta grâce nous suffit et qu'au travers d'elle, nous puissions continuer à marcher à ta suite, joyeux, sincère, dans l'authenticité et la vérité, de suivre un Dieu fidèle et bon. Amen.
Voilà, bonjour à chacun, bonne année à tout le monde. Donc d'abord quelques nouvelles, oui, parce que chaque année on a un programme qui se prépare. Donc moi je vais retourner dans certains pays que j'ai déjà visités les années précédentes. Et pour commencer, dans 2 semaines, je m'envole pour le Burkina Faso. Pour 2 semaines, prier pour moi, prier pour mon épouse, pour qu'elle soit en paix pendant que je suis là-bas, parce qu'elle se fait des soucis un tout petit peu. Mais je lui ai rassuré que je serai bien entouré, que voilà, les chrétiens où je vais enseigner vont m'entourer. J'ai un programme assez chargé pendant 2 semaines, puisque je dois enseigner à peu près 55% de l'Ancien Testament en 2 semaines. Voilà, alors tout à l'heure, Thierry m'a demandé combien de temps va durer ta prédication. Je lui ai dit, j'ai dit à ma femme que j'avais entre 10 minutes et 2 heures. Voilà, donc j'ai de la matière, donc 55% de l'Ancien Testament. Et puis, je me suis dit, Thierry m'a demandé de prêcher plusieurs fois dans ces prochains mois, donc il y aura 4 rencontres. Je me suis dit, je vais choisir un thème, ce sera le thème de Josué, puisque le premier livre que je vais enseigner dans 2 semaines, c'est le livre de Josué. Alors, bien sûr que ce n'est pas la première fois que j'enseigne ce livre, mais enfin, voilà, il a quand même fallu travailler tout cela. Voilà, donc les nouvelles, c'est 2 semaines au Burkina Faso au mois de janvier. En mois de février, je vais à Haïti pour 1 semaine. Et au mois de mars, j'irai à Jérusalem. J'ai dit à Ginny, écoute, tu m'accompagnes à Jérusalem. Là, c'est un petit peu plus en sécurité qu'à Haïti et au Burkina Faso. Voilà. Alors, le livre de Josué, j'ai 4 prédications. Alors aujourd'hui, ce sera, j'ai choisi comme titre, le bonheur au bout des pieds. Voilà, le bonheur au bout des pieds. Et nous allons parler de la traversée du Jourdain. Et je vais commencer par lire ce texte, la traversée du Jourdain. Le livre de Josué, vous savez, c'est un livre qui est que certains aiment et que d'autres détestent. Alors, ceux qui détestent le livre de Josué, c'est parce qu'ils disent que c'est un livre sanglant. C'est un livre sanglant, il y a des batailles, il y a des guerres et des génocides. Israël doit tuer les gens qui occupent la terre promise. Donc, voilà, c'est un petit peu difficile dans l'Église, à quelque part, d'adapter ce livre et d'en tirer quelque chose de bénéfique. Donc, certains n'aiment pas le livre de Josué, mais le livre de Josué est un livre exceptionnel, exceptionnel. Et donc ce matin, traversée du Jourdain, ce n'est pas encore trop sanglant, donc je me suis dit on va commencer en douceur, comme ça. Après, vous verrez que j'ai prévu d'autres textes plus difficiles, et pour le jour de Pâques, le jour de Pâques, il fallait quand même que je presse sur Josué, je vais parler de la conquête de Jéricho. Alors là, ce sera vraiment sanglant, excusez-moi, mais on arrivera quand même à faire un lien avec le Nouveau Testament. Voilà. Donc la traversée du Jourdain, et je vais commencer par lire une partie de ce récit. Je vais lire le chapitre 3, parce qu'en fait, c'est un récit qui est détaillé, qui s'étend sur 2 chapitres, le chapitre 3 et le chapitre 4. Et vous verrez pourquoi j'ai décidé de commencer par prendre ce récit aujourd'hui, traversée du Jourdain, passage dans une nouvelle année. Voilà, vous voyez un petit peu, il y a un lien quand même qui se fait là. Alors, le texte, Josué, chapitre 3, verset 1. « Josué se leva de bon matin, partit de Shittim. Ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites, et là, ils passèrent la nuit avant la traversée. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Au moment où vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, avec les sacrificateurs lévites qui la portent, vous partirez au lieu du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1000 coudées, ça fait à peu près 500 mètres, il y aura environ 1000 coudées, environ 2000 coudées, donc ça fait à peu près 1 kilomètre, n'en approchez pas. Ainsi, vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. » Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Et toi, donne cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance, vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, et alors vous vous tiendrez dans le Jourdain. » Josué dit aux Israélites, « Approchez ici et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceux-ci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il dépossédera vraiment devant vous les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Guérasaniens, les Amoréens et les Jébousiens. Voici que l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre traverse le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, 1 homme par tribu. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui viennent d'Amon, elles s'arrêteront en une seule masse. Lorsque le peuple sortit de ses tentes pour traverser le Jourdain, les sacrificateurs porteurs de l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Et lorsque les porteurs de l'arche arrivèrent au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche baignèrent au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses berges tout le temps de la moisson, les eaux qui viennent d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse à une très grande distance d'Adam, la ville qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendent vers la mer de l'Araba. La mer salée furent complètement coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance se tinrent au sec de pied ferme au milieu du Jourdain et tout Israël passa à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de traverser le Jourdain. Voilà, donc ça c'est un récit, c'est un beau récit, un récit de miracle extraordinaire, le Jourdain qui s'arrête de couler pour laisser à Israël la possibilité d'entrer dans la terre promise. Maintenant, le livre de Josué, c'est un livre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un livre exceptionnel qui décrit une génération exceptionnelle. La génération de Josué, c'est mieux que la chapelle de Clarence. C'est mieux que le peuple suisse. C'est une génération totalement fidèle à l'Éternel. Alors, ce n'est pas souvent que ça arrive, mais c'est arrivé une fois. Une génération extraordinaire. Et Dieu a fait des choses extraordinaires. Et dans le livre de Josué, on raconte cette période où Israël est entré dans la terre promise et a conquis la terre promise. On pourrait dire, le livre de Josué, c'est la conquête de la terre promise. Maintenant, dans ce livre, on raconte différentes choses, des choses uniques qui ne se sont passées qu'une seule fois. Alors, par exemple, la traversée du Jourdain, ça s'est passé combien de fois ? Une fois. C'est un jour précis que cela s'est passé. Plus jamais après, on a eu un tel miracle qui s'est produit. Il fallait tous passer ensemble à ce moment-là. Il ne fallait pas rester de l'autre côté. Il fallait entrer ensemble. Un miracle. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de la prise de Jéricho, les murailles qui se sont effondrées. Cela s'est produit une seule fois. Une seule des villes que Israël devait conquérir a été vaincue de cette manière, où Israël a dû tourner autour de la ville pendant 7 jours, et puis le 7e jour, 7 fois, avec l'arche qui était au milieu du peuple, et au son du cri du peuple, les murailles se sont effondrées. Une seule fois, cela s'est produit. Les autres fois, pour les autres villes qui ont dû être prises, il fallait les conquérir, il fallait faire le siège, il fallait les conquérir. Dans ce livre de Josué, une seule fois, Il est question d'une bataille, d'une bataille de Gabaon, lorsque Dieu envoie des rochers, des pierres du ciel pour tuer l'ennemi. C'est quand même pas mal quand vous battez, donc Dieu, voilà, il n'y a pas encore les missiles, mais enfin voilà, c'était le précurseur des missiles. Dieu envoie des pierres pour tuer les ennemis. Une seule fois, il y a Josué prie à un moment donné, il dit « Soleil, arrête-toi, lune arrête-toi ». Et pour donner un petit coup de pouce à quelque part à Josué pour qu'il puisse vraiment se défaire complètement des ennemis, et une seule fois, le soleil s'est arrêté et la lune s'est arrêtée. Et ces textes-là sont racontés dans le livre de Josué. Le partage de la terre promise, c'est une seule fois que ce partage a été fait. C'était fait du temps de Josué, on a divisé, puis voilà, c'était réglé, les frontières s'arrêtent exactement là, on ne pouvait plus les bouger par la suite, on ne pouvait pas négocier, etc. C'était fixé. Dans le livre des juges, une fois, il est question de la tribu de Dan qui veut chercher son bonheur ailleurs, mais il ne trouve que du malheur. Donc, le partage du pays s'est fait à une seule reprise. Et tous les récits qu'on trouve dans le livre de Josué, ce sont des choses qui se sont produites une seule fois. Alors, vous me dites, ben, c'est bien joli, mais à quoi bon tout ça, hein? Je veux dire, nous, on aime les choses quand même qui jouent. Je veux dire, si vous prenez un médicament et puis un jour vous sentez bien, puis le lendemain, il n'y a plus d'effet, vous dites, ben, non, moi, j'ai besoin d'un médicament, je peux prendre chaque fois j'ai un problème à l'estomac, ça me guérit ce problème. Mais là, c'est des événements qui se produisent qu'une seule fois. Mais ces événements sont très importants parce qu'ils nous parlent de la personne de Dieu. C'est Dieu qui se dévoile au travers de ces événements. Et c'est pour ça que Dieu a dit « Rappelez-vous des choses que j'ai faites. » Parce que même si elles ne se reproduisent pas tous les jours, ce n'est pas grave. Moi, je suis le même. Je reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que j'ai fait dans le passé est symptomatique et caractéristique de ce que je suis et de ce que je désire faire. Donc, la conquête de la terre promise, ça s'est fait une seule fois. Les chrétiens n'ont pas à aller conquérir un pays quelconque avec les armes, mais le récit ou les récits qu'on trouve dans le livre de Josué, ils ont une portée qui dure d'éternité en éternité, on pourrait dire, qui dure pour toutes les générations des croyants, parce qu'on peut s'accrocher à la révélation de Dieu, à ce qu'il a fait. Donc, il faut se souvenir. D'ailleurs, quand ils sont sortis du Jourdain, pendant que le peuple passait, il y a des hommes qui ont été chargés de prendre une pierre, 12 hommes, un par tribu, devaient prendre des pierres hors du Jourdain, je pense qu'ils prenaient des grosses pierres, pour les mettre au bord du rivage, faire une sorte de monticule avec 12 pierres, pour dire, ça c'est un mémorial. Comme ça, plus tard, quand il y aura vos enfants, vos petits-enfants, les autres générations, qui diront, c'est quoi ces pierres ? Mais ce sont ces pierres qui étaient dans le Jourdain, on les a sorties, c'est un mémorial qui va nous permettre de nous souvenir de cet épisode, de la traversée du Jourdain. Vous voyez, c'est important de se souvenir de ce que Dieu a fait. Alors, voilà, les mémoriaux peuvent changer, les éléments qu'on a pour se rappeler de quelque chose peuvent changer. Quand ils ont traversé la mer Rouge, quand ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait pas mettre on aurait pu prendre des pierres dans la mer Rouge et puis les mettre au bord du rivage. Mais ça aurait servi à quoi ? Parce que le rivage il était là-bas et Israël était ailleurs après. Tandis que ce monticule de pierres au bord du Jourdain, c'était dans la terre promise. Ça allait rester en permanence, cet endroit-là. Donc, pour la traversée de la mer Rouge, Dieu a dit, vous allez faire une fête. Vous allez faire une fête, la fête de la Pâque. Comme ça, chaque année, vous allez vous souvenir de cet événement unique qui s'est produit, à savoir la traversée de la mer Rouge. Et donc, peut-être aussi dans notre vie, parfois, nous devons avoir des souvenirs pour se rappeler des choses fondamentales. Alors, normalement, presque tous les dimanches ici à la chapelle, on a le repas du Seigneur. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a le repas du Seigneur ? Mais c'est pour nous souvenir du sacrifice de Christ qui a donné sa vie pour nous et qui est ressuscité. Alors voilà, c'est juste c'est quelque chose de symbolique, mais ça nous permet de nous rappeler d'un point fondamental de notre vie, à savoir la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Donc l'importance du souvenir. Et dans le livre de Josué, à de nombreuses reprises, il est dit, voilà, souvenez-vous de ça, laissez les pierres ici. Jéricho avait été détruite, il ne fallait pas la reconstruire, parce qu'à nouveau, il fallait que ce soit un souvenir pour les générations suivantes. Et malheureusement, parfois, ben, les gens, ils effacent les souvenirs. La ville de Jéricho a été reconstruite. Aujourd'hui, on a des mémoriaux aussi, on a la fête de Noël, voilà. Mais enfin, la fête de Noël, elle nous rappelle quoi ? Le Père Noël, le sapin, etc. Et on oublie finalement les choses fondamentales, à savoir que le Christ, Dieu en personne, est venu dans ce monde, l'incarnation. Voilà, donc c'est important de se souvenir. Les chrétiens sont des gens de l'histoire. On doit se rappeler les choses. D'où l'importance de lire et de relire et de relire la Bible pour que ces récits qui nous témoignent du Dieu vivant viennent en nous et nous fassent vivre. Nous vivons dans le passé pour vivre le présent et vivre dans l'avenir. Donc c'est, parce que ces choses qui se sont passées, elles sont aussi en rapport avec les choses qui vont venir. Et peut-être une autre fois, j'aurai l'occasion de vous parler un tout petit peu de la conquête de la terre promise, voilà, du livre de Josué, en lien avec le millénium. Parce que c'est clair, il y a des liens avec le millénium. Parce que les choses que Dieu a faites pour donner à Israël cette terre promise, eh bien, à un moment donné, le Christ va revenir au mont des Oliviers. Et il va conquérir les dernières armées de l'ennemi, de Satan, de la bête et de l'Antichrist, pour ensuite permettre à son peuple, à Israël, d'entrer dans le millénium. Donc il y a des liens qui sont là. C'est, le passé est important parce qu'il permet de vivre aujourd'hui, mais aussi il annonce l'avenir. Voilà, donc ça c'était mon premier point. Deuxième point concerne la terre promise. Alors la terre promise, c'est un thème, Dieu avait promis à Abraham, la terre promise. Vous vous souvenez, Abraham, il a dû quitter son pays, il est arrivé dans le pays, occupé par des Cananéens, et puis Dieu a dit, ben voilà, cette terre-là, tes descendants vont l'avoir. Mais Abraham n'a rien pu avoir. Tout ce qu'il a acheté, c'est une tombe pour enterrer son épouse. Mais c'est tout ce qu'il a acheté qui était à lui. Autrement, ben voilà, il paissait ses troupeaux, il allait à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. C'était la terre promise qui était là. Et Dieu a dit, je ne peux pas encore te la donner parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Les gens qui sont là ne sont pas encore assez méchants. Ils sont mauvais, mais ils ne sont pas encore méchants. Il faut attendre pour que quand ils seront vraiment, vraiment, vraiment méchants, à ce moment-là, le jugement viendra sur ces nations. Et à ce moment-là, cette terre te sera donnée à tes descendants. Et entre Abraham, qui est entré dans la terre promise, et la sortie d'Égypte, hein, où on se prépare à entrer dans la terre promise, il y a combien de temps qui s'est écoulé ? Entre Abraham et l'entrée et la sortie d'Égypte, il y a combien d'années ? Pas mal d'années. Hein. C'est plus que 500 ans. 540 ans, ça fait beaucoup quand même, d'attente, etc. Et quand on arrive avec Moïse, c'est la sortie d'Égypte, bon, c'est bon, on est sorti de l'esclavage, on va entrer dans la terre promise. Eh bien non, parce que là, il faut encore attendre 40 ans. À cause, cette fois, non pas du péché des Cananéens, mais à cause du péché d'Israël. Parce que le peuple est craintif et ne croit pas. La bénédiction attendue de Dieu, elle est retardée, repoussée. Et toute cette génération, la bénédiction va lui passer sur le nez. Ils ne vont pas la voir. Ils ne vont pas voir entrer dans la terre promise. C'est uniquement après que le dernier adulte du temps de la sortie d'Égypte est mort qu'enfin on pourra entrer dans la terre promise. Deux seuls adultes avaient cette possibilité d'entrer dans la terre promise. C'était Caleb et Josué. Donc voilà, cette terre promise, à quelque part, elle est attendue. Et quand Moïse meurt, au début, à la fin de la 40e année, le premier mois de l'année suivante, ça c'est le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, Dieu dit, c'est bon, allez-y, vous pouvez entrer dans la terre promise. Donc le livre de Josué se place à une période clé de l'histoire d'Israël où enfin, cette promesse qui a été faite par Dieu va enfin pouvoir s'accomplir. Israël va entrer dans sa terre promise. Alors comment, par où entrer dans cette terre promise ? Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux vous projeter une carte sous l'écran, voilà, je peux faire ça, ou bien je peux illustrer la chose. J'ai décidé d'illustrer la chose ce matin, voilà. Alors, je me suis dit, ça c'est, vous êtes la terre promise. Voilà, vous y êtes déjà, d'accord, mais enfin, voilà, ça c'est la terre promise. Ici se trouve la terre de Jordanie, on pourrait dire. Le Jourdain, il sépare le territoire du haut plateau du Jourdain de la terre promise. Ça, c'est le Jourdain. Ça, c'est l'Égypte. Je suis en Égypte ici. Là-bas, c'est le nord, d'accord? Je monte vers la terre promise. Où est-ce que je vais entrer dans la terre promise? Par où est-ce que je vais entrer dans la terre promise? Normalement, je vais aller tout droit vers la terre promise. Mais Dieu dit non, vous allez aller du côté des hauts plateaux, là, le milieu, voilà, bien au milieu. Vous allez au milieu du pays de la terre promise qui est là, Jéricho, qui se trouve juste en face. Et là, vous allez entrer dans la terre promise. Il y a le Jourdain qui est là. Alors, le Jourdain, c'est quoi? C'est une rivière, c'est un fleuve. Alors, voilà, c'est un obstacle. Ça, c'est le Jourdain, voilà. Vous avez compris? C'est un obstacle. Alors, le Jourdain, l'obstacle, il peut être comme ça, ou il peut être comme ça. C'est un obstacle, il est assez facile à traverser. D'accord? Maintenant, le Jourdain qui est comme ça, alors pour le traverser, voilà. Alors pour le traverser, c'est un peu plus compliqué. Il faut traverser le Jourdain.
Est-ce que tu veux que je tienne la table? Là, tu vas lui faire. Il y a d'autres peurs qui vont apparaître.
Voilà. Non, mais vous avez compris. Je n'ai pas besoin de me blesser pour montrer, là, pour illustrer la chose. Le Jourdain est un obstacle. Vous avez compris? D'accord. Il est un obstacle plus ou moins important. Parce qu'il y a des périodes dans l'année où le Jourdain, la rivière, elle a moins d'eau. C'est vrai pour les rivières de montagne, etc. Parfois, c'est juste un petit filet d'eau qui coule. Parfois, au contraire, à la fonte des neiges, il y a beaucoup d'eau. Et c'est difficile de traverser une rivière. L'histoire qu'on vient de lire, elle se situe le premier mois de l'année. On nous dit même que c'est le dixième jour du mois. D'accord? Le dixième jour du mois de Nissan. C'est au printemps. C'est à l'époque où les eaux sont les plus importantes. Et Dieu dit, voilà, je vous ai amené à la bonne hauteur, à la hauteur de Jéricho. Parce que c'est bien, parce qu'une fois que vous serez dans le pays, ce sera plus facile pour prendre le pays. Parce que vous pourrez le prendre au sud, au nord, etc. Vous serez bien placé pour faire cela. Oui, il y a une ville qui est là, qui est Jéricho, qui défend l'entrée de la terre promise. On s'en occupera plus tard. Mais il y a le Jourdain. Et donc, il faut traverser ce Jourdain. Et c'est là où Dieu fait ce miracle extraordinaire. Un miracle. Non, les gens, quand on parle de miracle, il y a des gens qui n'aiment pas les miracles. Ils disent, ouais, mais j'aimerais bien croire. Mais le problème, c'est que je ne peux pas croire dans la Bible à cause des miracles. C'est trop grand pour moi. Mais c'est juste le contraire. Les miracles nous aident à croire. Parce que les miracles sont des signes que Dieu est actif dans ce monde, qu'il a agi et qu'il intervient pour se révéler, pour se manifester. Donc c'est un miracle qui se produit. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment ce miracle se produit? Eh bien, il faut entrer dans cette... Et remarquez bien que ce passage du Jourdain se fait de la manière suivante. Les sacrificateurs qui portent l'arche vont mettre les pieds dans le Jourdain. Et dès qu'ils mettent les pieds dans le Jourdain, ah c'est le Jourdain, ce sont les eaux grandes du Jourdain, elles s'amoncellent en amont, loin. Très loin, quelque part. On nous dit l'endroit où ça s'est amoncelé. Comment? Ce n'est pas important. Certains ont imaginé qu'il y avait un glissement de terrain, etc., qui a coupé les eaux. Peu importe. Au moment où les sacrificateurs qui portent l'arche ont mis les pieds dans le Jourdain, l'eau s'est arrêtée en amont. Et l'eau a cessé de couler. On dit qu'ils ont traversé à sec. À sec, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de boue. Mais ça veut dire à sec, il n'y avait plus d'eau qui coulait. Et les sacrificateurs vont aller au milieu du lit du Jourdain. Ils vont rester là avec l'arche pour permettre au peuple de passer. Pas besoin de monter ceci. Ça serait encore possible pour un individu qui est fort à la natation de traverser une rivière avec des grandes eaux. Mais là, il fallait traverser. Tout le peuple doit traverser. Le peuple, c'est combien de personnes? Combien de personnes? 500 personnes? 2 millions au minimum, les adultes, les femmes, les enfants, sans oublier le bétail. Et tout cela doit passer. D'accord ? Donc Dieu fait ce miracle pour ouvrir le pays, vous entrez. Maintenant, les sacrificateurs, qui est le sacrificateur ici ? Peut-être le pasteur, enfin les anciens, enfin ceux qui ont quand même une certaine responsabilité. Ils doivent se tenir, parce que vous devez traverser le Jourdain. L'eau s'est arrêtée. Quel est le niveau de votre foi ? Moi, je me dis, il vaudrait mieux ne pas rester trop longtemps dans le Jourdain, hein, parce que vous savez, ça pourrait lâcher, ça pourrait revenir ces eaux. Si un barrage en coule lâche, alors attention, ce sera pire que quand l'eau coule normalement. Il faudrait passer rapidement. Et ceux qui portent l'arche, qui sont des hommes de foi, bien sûr, qui doivent être des modèles de foi, vont rester dans le Jourdain pour permettre au peuple de traverser. Et quand ils ont terminé, ah stop, avant de sortir, prenez les pierres, surtout pour oublier les pierres, pour faire un mémorial. 12 pierres au fond du lit, voilà aussi, deux mémoriaux, un qui va être recouvert par l'eau et l'autre pas. Et quand ils ont terminé, tout le monde a passé, plus personne est resté en arrière, maintenant vous pouvez sortir. Et au moment où ils sortent, dès qu'ils mettent le pied sur la partie, sur la rive de l'autre côté, l'eau, chut, se remet en place. Voilà, enfin, c'est l'histoire du Jourdain, c'est illustré, c'est pas une carte de géographie, mais enfin c'est illustré. Donc maintenant, si je représente Israël, je suis là. C'est bien ça. Je suis la terre promise. Le problème, c'est que devant moi, il y a qui ? Il y a le Jéricho, il y a les Cananéens qu'il faut battre. Excusez-moi, je crois que demain, je vais aller dormir de l'autre côté. Ah, mais je ne peux pas, parce que le chemin qui s'est ouvert s'est refermé. Donc, Dieu dit, d'accord, vous voulez être bénis, vous voulez entrer dans la terre promise, cette promesse qui était faite depuis longtemps, mais ce n'est pas une fois oui et une fois non. Le dimanche, je vais à l'église, mais le lundi, j'y vais surtout pas. C'est on y va, on y entre une fois pour toutes. Et bien sûr que cette entrée dans la terre promise illustre le baptême. Quand on se donne, quand on donne sa vie à Christ, c'est une fois pour toujours, pour l'éternité. Avec quoi ? Avec une bénédiction. Parce qu'on est dans la terre promise. C'est génial. D'ailleurs, la manne que Israël a mangée pendant 40 ans, c'était une nourriture miraculeuse. Chaque matin, enfin, pendant 6 jours de la semaine, il y avait la nourriture qui était à la disposition, mais pas le 7e jour. Et puis, voilà, parce qu'il fallait quand même se nourrir dans le désert. Quand ils entrent dans la terre promise, 4 jours après avoir été entré dans la terre promise, la manne s'est arrêtée. Il y avait encore de la manne de l'autre côté dans la terre promise pendant 4 jours, et après, terminé, plus de manne. Vous dites quoi ? La nourriture miraculeuse qui a cessé ? Mais c'est horrible ça ! Non, vous n'avez plus besoin de cette nourriture-là, parce que vous êtes dans la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Vous avez tout en abondance. Vous êtes dans la terre promise, je suis dans la terre promise, c'est génial, on est dans la terre promise. Hein ? Mais les ennemis qui sont là, les problèmes sont là, il y aura encore des choses. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Et il y a les promesses. Dieu a dit qu'il allait chasser les Cananéens. Et il va le faire. Et il y a d'autres miracles qui vont venir, qui sont racontés dans le livre de Josué, avec la défaite, la chute des murailles de Jéricho, avec les pierres qui vont tomber du ciel pour aider Jéricho à se défaire d'une coalition qui vient du sud, avec le soleil et la lune qui s'arrêtent pour permettre à Josué de poursuivre ses ennemis, etc., de remporter une victoire complète. Donc il y a d'autres miracles qui vont venir, qui ne sont pas tous annoncés à l'avance, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est avec son peuple. Voilà. Donc, c'est une belle histoire, c'est une belle histoire qui souligne quoi ? Qui souligne que Dieu veut bénir ceux qui sont fidèles. La foi est fondamentale dans cette histoire. C'est pas, voilà, on va parler peut-être des résolutions de la nouvelle année, Mais plus important que les résolutions que vous pouvez faire, c'est que Dieu agisse dans notre vie et que nous marchions à sa suite. Parce que cette traversée du Jourdain, elle s'est faite comment ? C'est bien Dieu qui a ouvert le chemin. Les sacrificateurs qui portent l'arche sont entrés en premier dans le Jourdain. Et il fallait suivre ceux qui étaient entrés dans le Jourdain. Quand on va prendre les murailles, la ville de Jéricho, c'est le peuple qui va marcher autour de la ville avec l'arche de l'Éternel au milieu du peuple et tout le monde va marcher autour pour bien montrer que c'est Dieu qui donne la victoire. Alors, je me dis, ce qui est important pour notre vie, c'est enfin, qu'est-ce qui est important pour cette nouvelle année ? Voilà. Qu'est-ce qui est important pour cette nouvelle année ? Qu'est-ce que vous désirez avoir ? Qu'est-ce que vous désirez faire ? Quelles sont les résolutions que vous avez prises ? Alors, moi, je ne veux pas vous décourager, hein, parce que, voilà, toutes ces bonnes résolutions, plus d'exercices, moins de ci, plus de ça, etc. Je vais lire ma Bible 3 fois cette année, etc. Vous êtes déjà un petit peu du retard, etc. Voilà. On a tous de bonnes résolutions. Mais moi, je vous propose que peut-être un défi, on pourrait se donner les uns les autres, c'est que pendant cette année, on va grandir dans la foi. On va grandir dans la foi. Parler des craintes, non mais oublions les craintes, ce n'est pas les craintes qui sont importantes, ce n'est pas la paix qui est importante. Plus important, c'est la foi. C'est de s'attacher à Jésus-Christ. Et quand on s'attache à Jésus-Christ, les autres choses vont venir aussi. Les craintes vont diminuer, vont disparaître. L'amour va grandir, c'est suivre le Seigneur, c'est suivre le Seigneur Jésus, qu'il soit vraiment mon guide. Cette arche qui représente Dieu, qui représente l'alliance de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui vient avec son peuple, c'est Jésus qui est venu dans ce monde, la scène, voilà, qui a donné sa vie pour que nous puissions vivre et que nous puissions nous attacher à Jésus et que nous puissions croître dans la foi. Parce que le problème, notre problème, le problème d'Israël, le problème de l'homme d'une manière générale, ça a toujours été le manque de foi. On ne croit pas assez, on croit mieux savoir. L'histoire du péché commence avec Adam et Ève qui ne croient pas les paroles de Dieu, qui écoutent plutôt la parole du serpent et puis qui s'égarent ainsi. Nous sommes sauvés par la foi. Et donc nous sommes appelés à grandir dans la foi. Et je pense que ça c'est un défi que nous pouvons tous essayer de relever cette année, dire « j'aimerais grandir dans la foi ». Que l'année prochaine, à la même période, quand je regarde en arrière, ce sera le 31 décembre, on dira « qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ?» Eh bien, j'ai grandi dans la foi. Bien sûr qu'on a besoin d'être encouragé dans la foi. On a besoin de s'encourager les uns les autres dans la foi. On a des fois quelqu'un d'un coup qui est très craintif, puis il se dit « oh, je ne sais pas ». Non, il faut calmer notre foi. Maintenant, il ne faut pas non plus être insouciant. C'est quoi la foi ? C'est pas de fermer les yeux puis d'avancer à tout prix. C'est de suivre Jésus. C'est de placer sa confiance en Dieu. Cette arche qui est là, qui a ouvert le chemin. Dieu veut des hommes et des femmes de foi. Une communauté de foi qui puisse avancer et faire confiance à Dieu. Alors, pour grandir dans la foi, bien sûr qu'on peut se donner certains moyens. Je les ai rappelés tout à l'heure. Par exemple, se souvenir des choses que Dieu a faites. C'est lire la parole de Dieu. La foi, elle vient de ce qu'on entend. La parole, c'est ce qui suscite en nous la foi. Hein? Ce n'est pas attendre comme ça, « Béatement, Seigneur, aide-moi, donne-moi la foi, donne-moi la foi. » Non, lisez, remplissez-vous de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va grandir en vous. Quelle est la différence entre la méditation orientale et la méditation chrétienne ? Des fois, il y a des gens qui disent, oh, il faut méditer, voilà, je médite pour que je sois un petit peu zen, etc. J'aurai la paix, Seigneur, donne-moi la paix, je suis chrétien, donne-moi la paix, vous êtes là. Et vous faites la méditation. Voilà. Alors, il y a la méditation orientale, hein, alors c'est, et puis il y a la méditation chrétienne. C'est quoi la différence entre les deux ? La méditation orientale, c'est le vide. Hein, vous faites le vide. Il faut que mon bras ne pèse plus, etc. Il faut que je ne sente plus rien, il faut que j'oublie tout, etc. Voilà, ça c'est le vide. La méditation chrétienne, c'est le contraire. Vous ne faites pas le vide, vous faites le plein. Vous faites le plein de quoi ? Vous faites le plein de Dieu.
Vous vous centrez sur la personne de Dieu. Ah, mais Dieu, ah, mais c'est génial. C'est quoi déjà le psaume qu'on a lu ce matin? Ah, ouais. Bon, mais il a lu que ces quelques versets. Mais je veux lire tout le psaume. Vous voyez, vous lisez les psaumes qui parlent de la souveraineté de Dieu, de la puissance de Dieu, de la sagesse de Dieu. Vous lisez les récits. Ah, mais Josué, chapitre 3, c'était génial. Ouais, mais il s'arrête au milieu du récit. On n'a pas lu Josué 4. Non, mais ça, c'est pour cet après-midi. Vous lisez Josué 4 cet après-midi. Et puis après, vous continuez parce que vous voulez connaître la suite, etc. Et à force de lire la parole de Dieu, de la méditer, eh bien, on se concentre sur ce Dieu qui s'est révélé, qui, dans le passé, qui agit aujourd'hui. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Et puis, qui va préparer aussi notre avenir, notre terre promise qui va venir. Il y a le millénium, et encore mieux que le millénium, c'est les temps éternels quand on est avec Dieu. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le programme que je vous propose pour cette année 2020, de grandir dans la foi et de faire... Voilà. Et puis, grandir dans la foi, pour grandir dans la foi, il faut parfois s'engager un tout petit peu. Il faut juste... se décharger de certaines choses, voyez, parce que par exemple si je voulais gravir là sur cette table là, et puis que si j'avais pris encore une table avec moi en plus, et puis un sac de montagne de 20 kilos, etc. Dire c'est déjà difficile de traverser, mais encore avec tout ça, ce sera impossible. On doit parfois se décharger. C'est des choses qui nous retiennent en arrière, qui nous empêchent d'avancer. Alors Israël, ils auraient été prêts à la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, on était tout de suite prêts à entrer dans la terre promise. Mais il y avait quelque chose qui les empêchait. Et ce qui les empêchait, c'était la crainte, c'était la crainte de l'ennemi, c'était le manque de foi. Et parfois, il y a des choses qu'on traîne avec nous, qui restent là, qui nous empêchent vraiment d'entrer dans le bonheur. Parce que le titre de mon message, c'est « Le bonheur au bout des pieds hein ». C'est comme Israël qui était là, il voyait la terre promise, il y avait juste le Jourdain entre deux, juste un obstacle qui était là. Et parfois le bonheur, il semble très proche et pourtant on ne l'atteint pas, parce qu'il y a des choses qui nous retiennent captives. Et les choses qui nous retiennent captives, bien c'est par exemple le péché qui nous retient captifs. Il y a des choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire, qui nous empêchent vraiment... de faire confiance à Dieu, parce qu'on sait que Dieu ne peut pas vraiment nous bénir, parce qu'on vit dans le péché. Parfois, c'est le matérialisme, c'est l'amour de l'argent, c'est le désir de la gloire personnelle, etc., qui sont des obstacles qui nous empêchent vraiment de saisir ce bonheur. Et donc, comme résolution, si on peut parler de résolution pour la nouvelle année, eh bien, c'est la résolution de suivre Jésus, se défaire des choses qui nous retiennent derrière, suivre Jésus dans sa marche, d'amour, de service, d'humilité, de don de soi. Et là, je vous garantis que le bonheur est avec vous. 2020 sera une année bénie parce que Dieu marche avec nous, devant nous, derrière nous et qu'il n'attend que notre engagement et notre foi pour cela. Que Dieu nous bénisse dans cette nouvelle année. Amen.